Le travail de la terre est pénible et exigeant. Je crois que je viens de dire une lapalissade. Si on veut obtenir une bonne récolte, non seulement il est indispensable que la nature coopère, mais il faut aussi être vigilant et appliqué. Si on néglige ne serait-ce qu'une étape, comme casser les mottes après avoir bêché, le rendement en pâtira. Je continue à lire dans la deuxième épître de Jean. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 8. Connaissant la menace sérieuse que constituent les hérétiques qui essayent de tromper les croyants, Jean tire un coup de semonce. Ses lecteurs doivent prendre garde aux effets spirituels désastreux auxquels pourrait aboutir tout compromis avec les enseignements de mensonge. Les responsables d'Église doivent faire preuve de vigilance, de discernement et même de méfiance, car les enjeux sont très importants. Ayant œuvré dans la vie de ses lecteurs, Jean désire naturellement voir arriver à maturité le fruit du travail spirituel que lui et eux ont accompli en commun. Paul a exprimé une préoccupation similaire à l'endroit des Corinthiens et leur écrit « Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie, oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai, en effet, fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Paul devait lutter contre les judaïsants qui prônaient un mélange de judaïsme et de christianisme, tandis que Jean tenait tête à des personnes qui, dans le passé, avaient fait partie d'une assemblée chrétienne, puis qui étaient sorties des rails. Comme c'est le cas pour tout pasteur fidèle, Jean et Paul souhaitaient que ceux qui leur avaient été confiés par le Seigneur ne perdent rien en route. Or, à la fin du premier siècle, de gros nuages sombres se dessinaient à l'horizon. Plusieurs mouvements qui s'opposaient à l'enseignement apostolique étaient nés et constituaient une réelle menace pour l'œuvre du Seigneur dans laquelle Jean et ses lecteurs étaient mutuellement engagés. L'Église du Christ aujourd'hui a reçu un héritage qui lui a été transmis de siècle en siècle. Or, ce patrimoine doit être préservé coûte que coûte. Tout au long de l'histoire, les hommes de Dieu ont prêché, enseigné et défendu la bonne nouvelle au prix de beaucoup d'efforts acharnés, de persécutions et même au prix de leur vie. L'apôtre Paul écrit « Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. » Plus tard, alors qu'il attendait d'être exécuté, il a exhorté Timothée à plusieurs reprises de protéger la vérité qui lui avait été confiée. Il lui écrit « Tu as entendu de moi des paroles de vérité, faisant ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Les croyants doivent user de discernement et résister avec fermeté aux hérétiques quoi qu'ils disent. La fidélité à la vérité, que ce soit la parole de Dieu ou la personne de Jésus, l'exige. Bien qu'il soit apôtre, Jean ne se considérait pas supérieur aux autres croyants, mais comme leur partenaire, ce qui fait qu'au dernier jour, quand les récompenses seront distribuées, il ressentira la perte qu'ils subiront s'il se laissait séduire par les faux frères. Bien qu'il soit impossible de perdre le salut, les croyants infidèles risquent de passer à côté de certains des bienfaits de Dieu que leur fidélité à la vérité leur aurait mérité. Jean souhaite évidemment que rien de cela n'arrive à ceux qu'il aime et avec qui il œuvre pour le Seigneur. Paul avait la même aspiration lorsqu'il a dit aux croyants de la ville de Colosse « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Il est intéressant de remarquer que le désir exprimé par Jean, qui veut que ses lecteurs reçoivent une pleine récompense, montre qu'un échec partiel de la part des croyants ne veut pas nécessairement dire qu'ils seront totalement privés de récompense. L'apôtre Paul écrit « On peut bâtir sur le fondement qu'est Jésus-Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Si dans mes valises j'ai de la paille et de l'argent, ce qui est combustible partira en fumée, mais il me restera quand même le métal précieux. Si le foin et le chaume seront brûlés, Dieu tiendra aussi compte de ce que les croyants auront fait de bien pour lui. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Les dernières paroles de nature théologique que l'apôtre Paul a prononcées, ou plutôt a écrites avant de mourir comme martyr, sont un encouragement à persévérer pour Dieu. Je les cite. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Je continue le texte de 2 Jean. « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. » Verset 9. Jean a, dans son collimateur, autant les hérétiques purs et durs qui rejetaient l'enseignement apostolique concernant l'identité du Christ, que les croyants qui se laissaient embarquer par les fausses doctrines. Les auteurs sacrés étaient réalistes et donc conscients de la possibilité pour de véritables chrétiens de devenir la proie de mercenaires religieux. L'ensemble du Nouveau Testament enseigne que Jésus est autant Dieu comme il est les deux, et cela sans équivoque possible. Mais les hérétiques du premier siècle se détournaient de cette vérité essentielle. Jean dit qu'ils s'en écartent. Selon les manuscrits, on a un mot qui signifie effectivement s'écarter, se détourner, ou bien le verbe qui veut dire aller devant ou plus loin ou au-delà. C'est du pareil au même, me direz-vous. C'est vrai, car tous deux suggèrent l'abandon de la vérité par ceux qui auparavant avaient dit y adhérer. Pourtant, il est plus probable que Jean a utilisé « aller plus loin » parce que ça correspond mieux à l'état d'esprit des hérétiques dont le souci était d'aller plus loin dans la connaissance. En effet, Ces gens qui étaient fortement influencés par les philosophies en vogue du premier siècle n'étaient pas satisfaits par la bonne nouvelle car trop simple à leurs yeux. Se considérant comme des penseurs progressistes, ils étaient en quête d'une nouvelle sagesse. Au lieu de rester fidèles aux Écritures, ils y ajoutaient des interprétations, des révélations et des altérations ésotériques de leur cru, prétendant posséder une connaissance approfondie et une nouvelle vérité qui n'était accessible qu'à eux-mêmes et à leurs disciples. Ils voulaient ignorer les paroles de Jésus qui a dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Jean répond à ses enseignants de mensonges qu'ils sont allés tellement loin qu'ils ont laissé Dieu derrière eux. Littéralement, il dit « Celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ». Ici encore, nous avons le verbe « demeurer » très souvent utilisé par Jean et qui signifie aussi « rester, continuer, persister ». Il est nécessaire d'accepter sans réserve l'enseignement du Nouveau Testament concernant Jésus le Fils pour être en communion avec le Père. Lors de son entrée triomphale dans Jérusalem, qu'on appelle le jour des rameaux, la foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ». Le mot pour « celui qui vient » est « aller devant ». Aujourd'hui encore, Jésus est devant nous et il nous appelle à venir à lui. Je continue le texte de 2 Jean. « Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. » Versets 10 et 11. Le mot pour salutation fraternelle vient du verbe qui signifie « se réjouir ». Il était utilisé par les chrétiens comme salutation cordiale et fraternelle de bienvenue, un peu comme on dirait « je suis tellement content de vous voir, chers frères ». Eh bien, il ne fallait surtout pas adresser une telle salutation à un hérétique. Demeurer dans la vérité à propos de la personne du Christ exige une ferme réaction contre ceux qui enseignent une doctrine mensongère. Dans le monde gréco-romain du premier siècle, un philosophe ou un docteur religieux itinérant était monnaie courante. Les prédicateurs chrétiens voyageaient eux aussi et comptaient sur l'hospitalité et le soutien des croyants qu'ils rencontraient. La communion, l'hospitalité et l'amour chrétien revêtaient une importance capitale, car à cette époque, les auberges étaient des repères de voleurs, des lieux malfamés, et il n'y avait pas d'endroit sûr où passer la nuit. De plus, on ne vous donnait même pas un lit, il fallait que vous ameniez votre propre couche, tapis, lit de camp, et les gens étaient entassés comme des sardines se touchant les uns les autres. Deuxièmement, dit Jean, il ne faut pas recevoir un hérétique dans sa maison parce qu'à cette époque, c'est là que les chrétiens se réunissaient. Le faux docteur invité à passer la nuit risque d'être aussi l'orateur au culte du dimanche. Voilà pourquoi les lecteurs de Jean sont exhortés à faire preuve de discrimination. Si quelqu'un vient à eux et n'apporte pas la vérité dans ses bagages, ils ne doivent pas lui adresser la salutation fraternelle, ce qui revient à ne pas lui donner l'hospitalité, qu'il reste dehors. Celui qui accueillerait de tels gens chez lui pourrait indiquer qu'il adhère à leurs enseignements et qu'il les croit crédibles. Par cette mise en garde sévère qui contient deux interdictions impératives, Jean cherche à protéger l'Église des personnes mal intentionnées qui venaient spécialement pour donner un message erroné, essayant ainsi d'entraîner dans leur sillage des croyants sincères mais immatures et de s'en faire des disciples. En dénaturant l'identité du Christ, ces faux docteurs s'attaquaient au fondement même de la foi. L'avertissement de Jean concerne des personnes connues et non pas des étrangers, et il est adressé à tous, du paroissien moyen aux responsables d'assemblée et à toutes les communautés chrétiennes. Pour l'esprit dit moderne, ces recommandations de l'apôtre Jean semblent rigides et dures à l'excès. Mais le problème réside dans l'attitude humaniste de notre siècle qui consiste à être tolérant envers tout et n'importe quoi. Cependant, les auteurs du Nouveau Testament ne partageaient absolument pas cet esprit de conciliation et de complaisance tous azimuts. Leur engagement à l'égard de la vérité et de la personne du Christ et leur prise de conscience des dangers de l'erreur doctrinale exigeaient de nombreuses et sévères dénonciations des enseignants de mensonges. Il n'est donc pas surprenant que notre époque moderne, qui est totalement aveugle à l'égard des hérésies religieuses, ne possède aucune conviction à l'égard de la vérité. L'avertissement de Jean est conforme à la dénonciation par Jésus des faux enseignants qu'il a traités de loups ravisseurs, de voleurs et de brigands qui ne cherchent qu'à dérober, égorger et détruire. L'Église ne doit en aucune manière aider de tels hors-la-loi spirituels. Dans ses écrits, Irénée, évêque de Lyon au second siècle et père de l'Église, raconte que lorsque Marcion, un hérétique notoire, demanda à Polycarpe « Reconnais-nous ?» Ce dernier lui répondit « Je te reconnais pour le premier-né de Satan. » Marcion croyait que le Père de Jésus n'était pas l'Éternel. Il rejetait en bloc tout l'Ancien Testament et ne retenait qu'une partie de l'Évangile de Luc et 10 épîtres de Paul. Cette hérésie eut du bon. En effet, à cause de Marcion, l'Église fut obligée de décider quels écrits étaient inspirés de Dieu, ce qui conduisit finalement à l'établissement de la liste des 27 livres du Nouveau Testament telle que nous la connaissons aujourd'hui. Toujours selon Irénée, Jean a rencontré Cérinthe, un autre hérétique notoire dans les bains publics à Éphèse. Au lieu de le saluer, Jean s'est enfui en déclarant à ceux qui l'accompagnaient « Sauvons-nous de peur que les termes ne s'écroulent, car à l'intérieur se trouve Cérinthe, l'ennemi de la vérité !» Je continue le texte de 2 Jean. « J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors, notre joie sera entière. » Verset 12. L'ancien explique qu'il ne termine pas sa lettre parce qu'il a épuisé son sujet. « Bien au contraire, dit-il, j'ai encore beaucoup de choses à vous communiquer. Mais comme il aime mieux parler qu'écrire et qu'il a écrit le plus urgent, il pose sa plume et garde les autres nouvelles pour le jour où il rencontrera ses amis. Il préfère donc attendre d'être sur place afin de parler de vive voix, littéralement de bouche à bouche. Un cœur rempli d'amour s'exprime plus facilement face à face qu'avec du papier et de l'encre. Il apparaît donc que Jean avait prévu une visite dans cette assemblée aux familles d'Église et qu'il s'en réjouissait d'avance. Jésus a établi un lien entre d'une part connaître et obéir à la vérité et d'autre part avoir de la joie. Je lis les passages. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Au premier siècle, quand on voulait conserver une lettre, on l'écrivait soit sur du papyrus égyptien, un support coûteux tiré d'une plante, soit sur de la peau de brebis ou de chèvre. On utilisait aussi des tablettes d'argile, mais seulement pour une missive temporaire qu'on ne voulait pas conserver. La plume était constituée d'un roseau fendu et l'encre était un mélange de suie et d'eau épaissie avec de la gomme résine. Je finis la seconde épître de Jean. Les enfants de ta sœur que Dieu a choisie t'adressent leur salutation. Verset 13. Le fait que, dans la salutation d'usage, Jean ne mentionne pas « Dame Kyria » est une autre raison de penser que cette lettre est adressée à un groupe de croyants plutôt qu'à une personne. La sœur est l'assemblée que fréquente Jean et les enfants sont ses membres. À notre époque, marquée par le relativisme et le scepticisme, l'Église de Jésus-Christ doit rester solidement fondée sur la vérité divine. Nul ne devrait tolérer des faux enseignements et il n'y a pas de vertu dans l'ignorance, car rien ne peut remplacer la connaissance et l'amour de la vérité. Ce n'est que dans ces conditions que l'Église peut remplir sa mission et accomplir sa vocation divine, qui consiste à être la colonne et l'appui de la vérité et à faire briller la lumière de la vérité de Dieu dans notre monde de ténèbres.